Bonjour Jean-Christophe Normand, puis-je vous demander quelle est votre activité en ce moment?
En ce moment, je vais préparer une exposition au MACVAL, le musée d'art contemporain du Val-de-Marne. Je suis rentré d'ailleurs dans le studio hier et je vais y rester 3 mois pour investir le lieu de la nef, hein, qui est un lieu avec une cimaise qui est très très grande, qui est très haute, très large, hein, et où l'idée c'est de réécrire entièrement un livre que j'ai écrit à la suite d'un projet réalisé au Cambodge, à Phnom Penh plus précisément. Et cette invitation à exposer au MACVAL se fait dans le cadre d'une autre exposition, un réaccrochage qui portera sur la question du récit et on pourrait dire, de l'usage de la littérature dans l'art contemporain.
Et votre travail pendant ces 3 mois-ci consistera en quoi exactement?
La matière même de ce travail, ce sera vraiment la réécriture donc du livre Le Grand Mékong Hotel. Et donc, très factuellement, j'ai le livre devant moi et je le réécris donc sur cette surface. Le hasard de calendrier veut que nous allons tracer demain matin l'échelle de cet immense rectangle comme une sorte d'immense tableau. Où l'idée aussi, ce sera de voir l'ensemble de ce livre et d'autres textes écrits postérieurement, et les voir comme une image d'un seul tenant.
Et ce texte-là, vous allez l'écrire à la craie sur le mur, avec quel outil vous allez écrire directement sur le mur, c'est ça?
Oui, je le réécris avec des marqueurs, avec une encre, voilà, c'est une encre noire sur le mur blanc. Noir et blanc, très simple.
Alors, ce livre, Le Grand Mékong Hotel, c'est une expérience que vous avez menée à Phnom Penh. Vous êtes arrivé dans la ville avec en poche Ulysse de Joyce. Et ce qui s'est passé, c'est que vous écrivez Ulysse en parcourant Phnom Penh. Alors, j'imagine courbé, en l'écrivant à la craie, à même le bitume, à même le ciment, à même le goudron. C'était une manière aussi de voyager, de vous approprier ce livre.
Oui, tout à fait. Alors, je pourrais même resituer les choses un peu plus comme ça dans leur ensemble, ce qui est vraiment, là, on va dire, l'origine de ce voyage à Phnom Penh, où l'idée principale, c'était, ça s'est passé, on va dire, après la lecture du livre de Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique, m'est venue à l'idée de reproduire les plans de l'appartement dans lequel elle a longtemps vécu, rue Saint-Benoît à Paris, et de trouver quelqu'un qui soit capable de me dessiner les plans de cet appartement de mémoire et de les reproduire par les voies de la navigation sur le Mékong, sur le fleuve de son enfance, en fait. C'est-à-dire à la fois, on pourrait dire, faire se superposer des espaces et des temps différents. Et le hasard a fait que, je ne sais plus, quelques mois après, j'ai croisé par hasard dans Paris Benoît Jacquot et je savais qu'il connaissait très bien, qu'il avait très bien connu Marguerite Duras. Je lui ai présenté cette idée qui lui a beaucoup plu. Il m'a réalisé ce plan très simplement comme ça sur une feuille volante. Et puis l'occasion m'a été donnée un peu plus tard dans le cadre d'une exposition collective qui avait eu lieu au FRAC Franche-Comté, d'avoir un budget, de me permettre de réaliser ce voyage. Donc l'idée principale, c'était ça. J'étais logé d'ailleurs dans un hôtel qui s'appelait Le Grand Mékong Hotel, voilà, ce qui a donné par la suite le titre de ce livre. Et comme chaque fois que je pars par exemple pour un projet de cet ordre ou autre chose d'ailleurs, j'en profite évidemment pour continuer donc ce projet en effet de réécriture de l'Ulysse de Joyce. Mais cette fois d'ailleurs le matériau est toujours le même. C'est l'usage de craie blanche, hein, et le livre prend la forme d'une ligne continue, ininterrompue. Ou d'une certaine façon, on pourrait dire que il n'y a plus, comme me disait un ami assez récemment, Jean-Michel Espitalier, il n'y a plus la question du retour à la ligne, hein, mais c'est vraiment, voilà, le texte qui à la fois dessine comme ça une ligne continue, et dans l'espace public où en effet il y a aussi évidemment la prise de parole, tout un tas, cette simple ligne crée une sorte de petite perturbation, un peu comme s'il y avait des sortes de chorégraphies urbaines. Et factuellement, chaque fois en effet que je fais un de ces voyages, je reprends au mot près là où je m'étais arrêté dans un voyage précédent, et je continue ainsi comme ça de par le monde, à voyager avec ce livre. Et deux choses qui me plaisent beaucoup, c'est de ne savoir ni où ni quand j'en aurai terminé avec ce projet Ulysse. Quoi. Voilà.
Et cette ligne que vous tracez, c'est avec la version originale d'Ulysse, donc la version anglaise.
Oui, j'utilise aussi la version dans la collection Folio quand je suis dans un pays anglophone, parce que j'aime quand même beaucoup aussi le dialogue qui naît de ces différentes actions. Et sinon, évidemment, je reprends la version originale. Hein. Ouais.
Et c'est une manière de vous déplacer, de faire déplacement dans la ville, une manière originale, parce que ça vous contraint aussi, quelque part, à avoir toujours le bon support pour écrire. Vous ne pouvez pas écrire sur du gravier, par exemple.
Bien sûr, ça c'est un fait très important. En effet, il faut une sorte de qualité de bitume, par exemple. Et soit ça se fait sous forme de repérage, ou en général, c'est vraiment l'improvisation dans les villes. Et il y a aussi une chose qui est importante, je pense, à signaler, c'est que c'est un projet artistique, ça va de soi. Mais quand je dis ça va de soi, ça va pas. D'ailleurs, évidemment, de soi pour les gens qui me voient ainsi. Et quand ils m'interrogent, je ne dis jamais au préalable que c'est justement un projet artistique, etc. Parce que je trouve que ça donne un peu une idée un peu dominante, ou ça oriente un peu trop le regard. Donc je décris assez factuellement, voilà. Je monte le livre ou quelques pages du livre que je tiens dans la main, et voilà, je leur explique mon projet. Évidemment, certaines personnes y trouvent cette dimension artistique. Les gens ont projeté une sorte de dimension politique, le fait de relier un lieu à un autre, etc. Et donc la parole est très très libre. Et il y a une sorte d'enchevêtrement, d'entremêlement comme ça aussi avec évidemment ce livre-monde, quoi.
Parce qu'il y a aussi votre propre position. Généralement, quand on est dans une ville, quand on se déplace dans une ville, on est debout ou dans un transport. Vous, pour écrire à même le sol, j'imagine que vous êtes accroupi sur les genoux. C'est-à-dire qu'il y a aussi une contrainte sur votre corps. Une main tenant le livre, l'autre main écrivant cette ligne continue. Que se passe-t-il en votre corps pour être à même le sol ?
Alors c'est vrai que c'est d'ailleurs cette position, je m'en rends compte maintenant avec l'expérience, avec toutes ces villes additionnées, tous ces nombreux voyages. Cette position-là est une position qui apparaît de façon très très douce d'ailleurs aux différentes personnes que je croise, et me permet de quasiment être jamais interrompu, d'aller un peu dans, on m'a déjà dit, va pas, je sais pas, à tel endroit, à Buenos Aires ou je ne sais où. Tout c'est toujours, c'est vraiment un geste très très paisible. Et alors c'est vrai que ce rapport au corps, en effet, il y a quelque chose de très physique comme ça, avec des flexions permanentes. Et je pense que c'est d'ailleurs assez... J'ai pas du tout réfléchi à cette chose-là au préalable, mais je pense que c'est très aussi connecté à l'activité que j'avais avant. Moi, j'étais grimpeur, alpiniste. Et d'une certaine façon, la question du corps et de sa mise en action, et c'est fait naturellement dans ma pratique artistique. Et on pourrait dire que je suis passé à des... j'en suis revenu à faire des sortes d'expéditions ou escalades horizontales, quoi, d'une certaine façon, maintenant.
Et cette position est-elle la plus adéquate pour entrer en communication avec l'environnement autour, puisque forcément ce que vous allez faire interpelle toutes les personnes qui vont vous voir? Vous ne dites pas en plus que c'est dans le cadre d'une pratique artistique, donc c'est encore plus déconcertant, j'imagine, pour qui vous voit et pour qui a envie d'en savoir plus. Est-ce que le contact peut se faire justement facilement parce que vous êtes à même le sol?
Oui, je pense, mais il y a aussi vraiment le... Après, je m'en rends compte avec les différentes paroles comme ça qui me reviennent. C'est aussi quelque chose qui marque beaucoup les gens, c'est la temporalité, c'est la distance. Par exemple, parce que je finis par parcourir des kilomètres, hein, et des fois, les gens me rencontrent comme ça par surprise dans la rue, mais ils ont suivi cette ligne, hein, donc de rue en rue, et ils me voient d'un seul coup comme ça. Et ils sont déjà familiarisés, et souvent aussi l'écho qui en est fait, c'est qu'avec cette simple ligne, ça génère plusieurs choses, ça génère par exemple une sorte de ralentissement comme ça dans la ville. Ça permet de visualiser même architecturalement la ville différemment, une attention au son qui est complètement différente. Et puis, moi, je me rends compte aussi d'une chose. Évidemment, il y a à la fois de voir la réaction des gens, moi, au moment où j'écris, où d'ailleurs, je suis quand même très concentré dans ce geste de réécriture, mais il y a aussi quand moi, je reviens sur les pas complètement anonymes et que je vois la réaction des gens qui sont face à cette ligne et qui n'ont aucune réponse et aucune personne aucune personne à interroger et qui créent eux-mêmes des histoires. Alors, il y a des fois des histoires qui se créent ou des sortes de légendes comme ça. Et ça, c'est aussi tout un aspect qui m'intéresse beaucoup, qui est une sorte de réappropriation naturelle de ce geste.
Parce qu'on peut imaginer comme ça, d'un point de vue extérieur, qu'à Phnom Penh, Ulysse de Joyce ne soit pas si connu que ça par les personnes communes que vous avez dû rencontrer. Donc vous avez dû aussi vous expliquer sur pourquoi ce livre-là, pourquoi ce texte et quelle signification particulière il peut avoir dans notre civilisation européenne.
Oui, alors j'avoue que je ne vais pas jusqu'à... je vais pas trop loin dans cette question-là. Je me suis quand même rendu compte que, bon, après, je pourrais pas dire le nombre de personnes qui ont lu ou qui connaissent même certains détails, mais c'est en tout cas... Ou peut-être d'ailleurs qui font la superposition, qui confondent avec l'autre Ulysse, mais c'est vraiment un mot qui circule énormément. Et oui, c'est vraiment quelque chose qui se fait très, 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 très naturellement. Il faut dire aussi, par exemple, sur la question aussi du parcours, par exemple, il n'y a pas de trottoir à Phnom Penh. Enfin, ou plutôt, tous les trottoirs sont investis immédiatement par les déambulants, les gens qui font à manger sur toute la cuisine de rue, etc. Et moi, j'écrivais à même la rue. Et spontanément, les gens me prévenaient du danger des voitures, etc. Donc, il y avait vraiment une sorte de collaboration très très naturelle, comme la prise de parole, il y a immédiatement comme ça une prise de parole qui est très très forte, c'est assez étonnant.
Vous écrivez à un moment donné dans le Grand Mekong Hotel, je vous cite, « Et aujourd'hui je me suis perdu, les personnages croisent des personnages réels, ma lecture hachée ne dit plus rien du texte original, que viennent faire Stéphane Dédalus et Léopold de Blum à Phnom Penh ?»
Et oui, évidemment, voilà, c'est vraiment c'est se perdre dans la ville, se perdre dans le livre. On a beau avoir lu un livre, ou même comme celui-ci, même plusieurs fois. Là, actuellement, alors que je suis complètement immergé dans ce projet de réécriture d'Ulysse, je peux pas prendre la. Je peux pas expliquer la. Je peux plus revenir pour l'instant presque à ma lecture originale de ce livre. Et tout se mélange. Je crois que c'est quelque chose qui reviendra. Je pense qu'assez rapidement, après en avoir terminé de ce projet, j'aurais envie de relire Ulysse, bien sûr. Mais bon, il y a encore pas mal de chemin à faire. Mais s'agissant en tout cas de... Quand je dis que j'ai se mêle à cette lecture originale, en tout cas, je pourrais... Il y a une chose dont vraiment j'ai souvenir, c'est l'évocation de cette lecture dans le... par Kerouac dans Sur la route, où il explique qu'il lit le livre d'ailleurs quasiment continuellement, jour et nuit, comme ça, sur quelques jours. Et peut-être là aussi que cette dimension presque physique, là aussi, de la lecture m'a sans doute marqué, mais bon, ça je l'ai appris naturellement comme ça des années après, quoi.
Et puis aussi, de cette position là, du corps, de ce que vous faites, j'ai l'impression aussi que c'est une activité qui efface toute hiérarchie. L'artiste a toujours une vie, on imagine toujours l'artiste un peu surplombant le monde, et alors pas là du tout, vous vous mêlez à tout le monde justement, et vous vous y mêlez par le bas, c'est-à-dire par la position accroupie à écrire à même le sol. C'est une position de grande humilité.
Ah oui, ça c'est vraiment un point très 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 important. C'est pour ça d'ailleurs que très rapidement je vous parlais de cette question de ne pas au préalable annoncer qu'il s'agit d'un projet artistique, par exemple. C'est vraiment être à la même hauteur et dans ces échanges. d'une façon à tout recevoir, parce que c'est quand même ça peut être pris comme ça. Il y a une, oui, on pourrait dire une certaine humilité, mais c'est moi je reçois énormément, c'est extrêmement riche, et je pense que c'est assez naturellement en tout cas la bonne position comme ça dans les villes, et ça échange, quoi. C'est vraiment ça crée vraiment, c'est ça, un lieu d'échange. Et de toute façon, je pense qu'en général, dans l'ensemble de ma pratique artistique, toutes ces questions-là sont prédominantes chez moi. Il y a aussi presque, en général, par exemple, le fait de ne, pour ainsi dire, jamais fabriquer d'objets, de créer des espaces comme ça, immersifs, comme ce sera le cas au Macval, où finalement, les visiteurs seront amenés en permanence, parce qu'à la fois, on est en face de l'ensemble d'un livre, mais au final, on ne peut évidemment pas le lire physiquement. L'espace est beaucoup trop important. Donc, on est amené sans arrêt à recomposer un texte, à refabriquer d'une certaine façon un récit. Et on est tout le temps, le visiteur est l'auteur également. Comme les gens que je croise deviennent des sortes de co-auteurs de ce projet-là, quoi.
Jean-Christophe Normand, comment vous est venue cette activité? J'ai cru comprendre que ça avait commencé à Berlin, que c'est venu aussi à la suite d'une maladie, alors que vous ne pouviez plus grimper la montagne. Parce que c'est une activité curieuse, une activité étonnante.
Oui, alors c'est vrai que j'ai eu une sorte de première vraiment grande passion, qui était un peu comme ça la chose centrale de ma vie, qui était l'escalade et la montagne. Et un problème de santé à l'époque, pour dire assez précisément les choses, plusieurs embolies pulmonaires, fait que je me retrouvais dans une situation très critique. J'ai d'ailleurs vraiment en tête la phrase prononcée par un des médecins à l'époque, où je lui, voilà, après de multiples examens, essaie de résumer en une formule ce qui m'arrive, et m'annonce comme ça: vous êtes atteint d'une maladie dont le diagnostic est péjoratif à court terme. Donc là, c'était quand même vraiment très brutal. Et vraiment, j'apprends ça. Et presque immédiatement, il y a cette décision, je me dis, je vais devenir artiste. Et j'ai pas eu un parcours classique à faire, une école d'art ou une école des beaux-arts. Bon, j'ai toujours été attiré depuis l'enfance, on va dire, la peinture notamment, quelque chose que j'ai beaucoup regardé. Mais voilà, c'était vraiment comme une sorte de prise de décision, et comme cette décision dont parle Thomas Bernard dans la cave, par exemple. C'est, voilà. Et mais je savais pas ce à quoi ça correspondait. Ça correspondait vraiment, mais je savais que je pourrais m'engager dans une voie comme je le faisais juste auparavant dans ce qu'on appelle d'ailleurs réaliser une voie, que ce soit en escalade ou en montagne.
Parce que c'est une activité aussi dangereuse. On imagine à Phnom Penh une circulation automobile un peu chaotique, désordonnée. Et alors, je vous imaginais donc accroupi, tenant craie, étant assez peu visible et aussi respirant une aire de pot d'échappement.
Oui, alors il y a en effet ces dangers. Et c'est vrai que c'est pas la ville la plus simple, mais fort heureusement, j'avais déjà l'expérience d'autres villes beaucoup plus praticables, entre guillemets, avec ce geste-là, quoi. Mais au fond, des fois, je me demande si... Bon, après, l'expérience fait qu'il ne m'est jamais rien arrivé, mais... Et j'ai toujours eu... alors peut-être là encore, c'est relié avec, on pourrait dire, ma vie d'avant, avec toute la pratique que j'ai actuelle, mais... Est-ce que le danger, c'est pas de ne pas faire, de ne pas se confronter ou de ne pas tenter telle ou telle expérience, de ne pas expérimenter les choses? Ça me semble une voie des fois dangereuse, en fait.
Ouais. Alors, j'aimerais qu'on relate une aventure qui vous est arrivée à Phnom Penh. Vous êtes abordé par un Français, parce que sur votre sac, il y a un mot français, donc il imagine que vous parlez la langue. Vous le rencontrez, il vous invite chez lui et il veut vous montrer sa bibliothèque, dont il est très très fier. Enfin, on imagine que, enfin, vous relatez que sa bibliothèque est vraiment un des centres de sa vie. Il l'a fait venir exprès de France. Et alors, vous visitez sa bibliothèque, il vous laisse tranquille pour la regarder. Et vous vous mettez à recopier les dernières phrases de ses livres. Et c'est ce que vous avez fait également avec la bibliothèque personnelle de Friedrich Dürrenmatt lorsque vous étiez à son centre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet, de ce qui se passe au contact d'une bibliothèque?
Alors c'est vraiment quelque chose qui est venu spontanément, comme ça, quelque chose de très intuitif, comme c'est souvent le cas dans mes projets, y compris les projets au long cours. Il s'est trouvé que j'ai été vraiment aussi pris par surprise, parce que une fois qu'il m'a présenté comme ça cette bibliothèque, il est parti dans une autre partie de l'appartement, discuter avec sa femme et sa fille, et il m'a laissé seul, il m'a dit « tu fais comme tu veux ». Et j'ai passé la nuit à en effet emprunter chacun des livres et réécrire. Et très vite, je me rendais compte aussi avec ce geste initial que ça produisait des choses. Et donc, je suis allé jusqu'à cette espèce de, pourrait dire presque, d'épuisement du corps et de la bibliothèque elle-même. Et puis après, ça, bon, c'est là aussi, c'est comme souvent, c'est après, la réflexion arrive après, mais peut-être que ça trouve aussi son origine dans des lectures que j'ai pu faire de l'œuvre de Borges, où je suis plus certain d'ailleurs si Borges il évoque ça dans une de ses nouvelles ou alors dans un des nombreux entretiens qu'il a donné, où il imagine comme ça dans la bibliothèque à Buenos Aires les livres dialoguer entre eux comme ça pendant la nuit. Donc il y a aussi cette question-là est toujours aussi, je pense, la question de la déambulation comme ça en général dans les villes, mais là dans un lieu qui est à la fois qui est clos et on peut dire qui s'ouvre comme ça en permanence et d'une certaine façon passer comme ça de livre en livre, c'est aussi comme passer d'une rue à une autre, connaître, rencontrer telle ou telle personne. Donc sont comme ça des prises de parole qui s'échangent. Après dans la bibliothèque personnelle de Friedrich Dürrenmatt. Bon, déjà, la bibliothèque était beaucoup plus importante. C'est un travail qui a pris un peu plus d'une semaine. Et puis, la plupart des textes étaient écrits en allemand. Donc après, il y a eu un travail de traduction que j'ai dû mener moi un peu, on va dire, un peu sauvagement, parce que je parle quand même vraiment pas suffisamment la langue allemande. Et puis, personne ne vous laisse lancer dans ce projet de traduction qui était à la fois qui leur semblait trop compliqué, puis passer d'un auteur à un autre comme ça, ils trouvaient ça une entreprise tout à fait impossible. Et donc il y a eu d'une certaine façon après à nouveau une forme de réécriture dans la façon de réécrire en réécrivant. Enfin, vous voyez, c'est toute une sorte d'entremêlement comme ça. Et puis plus récemment encore, j'ai réalisé à nouveau ce geste de réécriture cette fois-ci avec le fonds documentaire c'était dans un FRAC, donc c'est les fonds régionaux d'art contemporain, et à Marseille. Et là aussi, c'est-à-dire que chaque fois, ça produit évidemment un texte différent. D'une certaine façon, ça donne presque une sorte de portrait en creux. Alors là, soit par exemple de l'univers de Friedrich Dürrenmatt, mais aussi par exemple, comme c'était le cas de quelqu'un rencontré comme ça par hasard à Phnom Penh ou à Marseille, de ce qui est l'histoire finalement d'une institution, quoi.
Merci beaucoup, Jean-Christophe Normand.
Merci à vous.